France Culture, rue des Écoles, Grand Amphi.
La volonté politique.
C'est un paradoxe. Rares sont les parlementaires qui connaissent, voire s'intéressent aux universités. Les débats de l'an dernier sur les classes préparatoires ont montré que nos politiques savent très bien se mobiliser pour protéger les filières élitistes dont ils sont généralement issus et où ils envoient leurs enfants. Mais pour l'université, c'est beaucoup moins évident, Marie-Caroline.
Alors comment expliquer cette faible représentation des universités et des étudiants dans le débat public, même avec une petite voix comme la mienne aujourd'hui? Nous recevons aujourd'hui une exception dans ce paysage que vous avez décrit, Louise. Il est universitaire, justement. Il enseigne depuis 1999 à Paris 2, à Assas. Il a dirigé le laboratoire de recherche en gestion de Panthéon Assas. Il a été recteur de Limoges. Il a été conseiller éducation de François Fillon à Matignon. Il a été directeur général de l'enseignement supérieur avant d'être élu député UMP du Bas-Rhin. Je suis. Bonjour Patrick Hetzel.
Bonjour Marie-Caroline Missire.
Alors, dans l'actu cette semaine, un sujet majeur, celui des stages, qui est revenu sur le devant de la scène, puisqu'un décret qu'on attendait tant, qui applique la loi qui a été votée cet été sur l'encadrement des stages et qui protège les stagiaires, vient d'être publié. Vous vous étiez vivement opposé à cette disposition, ce qui est assez étonnant. Pourtant, elle protège les étudiants. Pourquoi vous étiez opposé à ce décret ?
Alors moi, j'ai été opposé à ce décret pour une raison toute simple, c'est que on a constaté des dérives à la marge. Et en fait, ce qui était surprenant, c'est que l'état d'esprit du législateur, tel qu'il a pu se déployer dans l'hémicycle, c'était de dire, ben finalement, parce qu'il y a des dérives à la marge, on va modifier...
C'est quoi ces dérives à la marge ?
Ben, en fait, des stagiaires, qui sont utilisés finalement dans des contextes d'emploi classiques et donc qui devraient en fait être employés comme salariés. Mais ça, c'est un problème qui aujourd'hui d'ailleurs pouvait être traité par le droit du travail. Et en fait, moi, je me suis battu parce que fondamentalement, le stage doit relever du code de l'éducation, parce qu'on est dans un acte qui est un acte éducatif. Et je pense que, en fait, cette dérive à laquelle on a assisté dans le débat, c'est-à-dire vouloir faire en sorte que tout relève aujourd'hui du code du travail, je pense que c'est dangereux parce qu'en fait, on va dissuader les employeurs de recourir aux stagiaires. Or, en fait, les stages sont quand même extrêmement utiles. Et donc, voilà, c'était un peu ça le débat.
Mais ce qui est paradoxal quand on vous écoute, quand on écoute vos interventions en séance, c'est qu'on a l'impression, vous qui êtes universitaire, vous qui êtes un des rares parlementaires à connaître ce milieu, à en être issu, vous prenez plus le parti des entreprises, dont on a largement parlé aujourd'hui, que celui des étudiants, finalement.
Mais en fait, pour moi, ce qui était extrêmement important, c'était de partir aussi du principe de réalité. Et en fait, moi, les étudiants que j'ai, puisque je continue d'enseigner, ils sont demandeurs de stage. Et quand je vois les difficultés qu'ils rencontrent pour trouver des stages, parce qu'il y a effectivement des barrières et des employeurs qui disent « Écoutez, c'est trop lourd pour nous », en fait, tout ce que l'on met en place de manière extrêmement coercitive sur l'ensemble des employeurs est de nature à les décourager. Et je pense qu'en réalité, on dessert les étudiants. C'était ça le débat. Moi, je ne suis pas en train de prendre position pour les uns ou pour les autres, mais de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour être sûr que nos étudiants puissent s'insérer professionnellement. Et pour cela, ils ont besoin de stages, donc il ne faut surtout pas raréfier l'offre de stages.
Alors, justement, vous ne vous sentez pas un peu seul à l'Assemblée, au Parlement, à être issu de l'université, à connaître ce milieu ? Comment on fait quand on est un parlementaire qui s'intéresse aux questions d'éducation ? C'est pas très vendeur en général.
Non, mais je l'assume pleinement et d'ailleurs c'est ce que je revendique cela. C'est vrai qu'on est un peu isolé, mais on est surtout isolé parce que les questions éducatives, finalement, alors que c'est le plus grand budget de l'État, à la fois l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la recherche,
63,4 milliards pour l'éducation nationale.
Finalement, vous regardez, c'est très très peu abordé dans les débats parlementaires.
Et pourquoi ?
Eh bien, tout simplement parce qu'à un moment donné, vous êtes amené à avoir une certaine expertise. Et comme vous le disiez, nous sommes relativement peu nombreux à la fois à être issus de l'université et donc à pouvoir en parler en connaissance de cause.
Mais c'est quand même un problème pour le débat public.
Vous avez pleinement raison. Problème pour le débat public et surtout la temporalité. Dès que l'on parle d'éducation, on ne peut pas faire vite. Il faut raisonner sur du temps plus long. Et ça n'est pas forcément le temps du politique. Et on a là aussi un travail énorme à faire pour faire comprendre que dès que l'on parle d'éducation, il faut disposer de temps.
Et restons sur l'université, si vous le voulez bien, Patrick Hetzel. Car ce n'est pas seulement l'éducation qui est mal aimée des parlementaires, et c'est vous qui le dites, hein, ce n'est pas moi, mais c'est l'enseignement supérieur dans son versant universitaire, et on l'a dit en début d'émission, peu de parlementaires sont issus des filières non sélectives de l'université. Or, aujourd'hui, le grand débat, c'est la démocratisation de l'éducation supérieure. Il est maltraité à l'Assemblée nationale.
Alors, c'est quand même un sujet qui, celui-là précisément, il est débattu lorsque l'on aborde les questions budgétaires, mais c'est vrai qu'il faut le traiter là aussi, en remettant les choses en perspective. Là aussi, moi, je me refuse par contre...
Ça veut dire quoi, remettre les choses en perspective?
En perspective, moi, je n'oppose pas les filières, dans le sens où nous avons besoin de diversité. La diversité est une richesse. Et donc, l'université et les écoles ont leur place à jouer dans le système.
Alors, revenons sur un point que vous avez abordé sur le budget des universités qui nous a largement occupé ce matin, puisqu'il était examiné au Sénat. On cherche à retrouver les millions d'euros, les 170 millions d'euros qui ont été supprimés par l'Assemblée nationale. Vous qui avez été de l'autre côté, du côté de l'administration, à la DGCIP, à la Direction Générale, pensez-vous vraiment que certaines universités sont en faillite aujourd'hui?
Alors, le terme de faillite pour les établissements publics ne saurait s'appliquer. Que certaines rencontrent des difficultés...
C'est ce qu'elles disent pourtant, non, c'est ce que dit la CPU aussi.
Certaines universités sont effectivement en difficulté. C'est indéniable. Et je pense que, en fait, la question budgétaire, elle est centrale. Le débat, comme nous l'avons vu à l'Assemblée nationale, c'est que, hélas, le ministre, que ce soit Madame Vallaud-Belkacem ou Madame Fioraso, en charge plus spécifiquement de l'enseignement supérieur et de la recherche, se trouve confronté à Bercy. Et en fait, Bercy exerce... Non, ça n'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, la pression, on le sent bien. J'ai senti une ministre très en défensive parce que, effectivement, les offensives de Bercy sur son budget sont extrêmement importantes. Et ça montre d'ailleurs le décalage entre le fait de considérer, et la nécessité d'ailleurs de considérer l'éducation en général et l'enseignement supérieur en particulier comme étant une priorité et le traitement budgétaire.
Comment vous expliquez que des députés aient pu amputer un budget aussi important que celui de l'enseignement supérieur de plusieurs centaines de millions d'euros?
Et je ne me l'explique pas. Ça montre une fois de plus que, ils ont suivi des consignes de groupe et ils se sont inscrits dans une logique de consignes de vote, je pense, plus que d'analyse de fond sur
ça
la question.
Ça se dénouera dans les prochains jours. Dernière question qui pique un peu, pardonnez-nous. Vous êtes ce qu'on appelle un cumulard, c'est-à-dire que vous avez un poste d'universitaire que vous cumulez avec vos fonctions et vos revenus de député. Alors comment ça se gère, ça, dans le temps? Et puis au niveau de la loi, c'est admis, mais c'est assez confortable comme statut.
Alors confortable peut-être pas, dans la mesure où c'est beaucoup de travail. Je suis foncièrement attaché à mon activité d'universitaire, et d'ailleurs je ne l'avais même pas arrêté quand j'étais ministère. Pour moi c'est extrêmement important de garder cette activité d'universitaire, et elle est très riche aussi pour alimenter l'activité du parlementaire.
Merci Patrick Hetzel.
Et merci Marie-Caroline Missire, et vous allez me soigner ce vilain rhume. Une annonce importante, nous organisons des forums cette année, les forums de rue des écoles. L'idée est de nous donner l'occasion de dialoguer ensemble, chercheurs, enseignants, responsables politiques, parents, citoyens. Nous souhaitons croiser les regards et confronter les expertises. Il n'y aura que 4 forums cette année, dans 4 villes différentes. Le premier forum, c'est à Amiens, ce samedi à 15h, à la Comédie d'Amiens, et il aura pour sujet la mixité sociale. Pourquoi est-ce une question si épineuse? Je vous donne donc rendez-vous ce week-end et mercredi prochain, mais tout de suite, dans un instant, les nouvelles vagues de Marie Richeux.